Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chaque invité depuis chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, Renault, l'État sauveteur ou l'État planificateur? Ce matin, le groupe Renault a annoncé 15 000 suppressions d'emplois dans le monde et 4 600 en France. Dans le même temps, l'État, actionnaire à 15 % de Renault, a posé des conditions en contrepartie du prêt de 5 milliards qu'il garantit au groupe automobile. Qu'est-ce que cette situation entre argent public et argent privé nous dit de la place de l'automobile dans notre économie? L'État n'est-il là que pour sauver les entreprises ou pour mettre en œuvre une politique industrielle comme autant, par exemple, du plan après la Seconde Guerre mondiale ou dans les années 60, de la planification. À gauche comme à droite, les avis divergent sur ce rôle de l'État dans l'économie et l'investissement. Le temps du confinement a coïncidé avec l'idée d'un retour de l'État, c'est ce qu'on disait à ce moment-là, mais un mois et demi plus tard, qu'en est-il vraiment? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Jean-Philippe Fellmann, il est juriste, professeur à Bretagne Sud et avocat à la Cour de Paris, et vous avez contribué entre autres au dictionnaire du libéralisme chez Larousse. Bonsoir Jean-Philippe Fellmann.
Bonsoir.
Avec nous Anne Hédoux, elle est maîtresse de conférence en économie au CNAM, elle est chercheuse au CEET et au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique. Elle est membre des économistes atterrés. Bonsoir Anne Hédoux.
Bonsoir.
Et enfin Jean-Louis Loubet, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire automobile, auteur entre autres d'une autre histoire de l'automobile. C'était aux excellentes presses universitaires de Rennes, c'était en 2017. Bonsoir Jean-Louis Loubet.
Bonsoir.
Et je vais commencer avec vous, Jean-Louis Loubet, puisque effectivement, nous parlons de Renault, c'est l'actualité du jour évidemment, mais c'est aussi parce que Renault tient peut-être une place à part dans l'industrie et dans l'économie française. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de l'automobile, c'est votre sujet, et en particulier sur celle de Renault. Qu'en est-il exactement de cette place de Renault, à la fois dans l'économie réelle, pourrait-on dire, mais aussi dans l'imaginaire économique français ?
Je pense que l'image de Renault est très forte, surtout cette image de régie nationale. C'est-à-dire, vous savez que Renault a trois vies, celle du fondateur, celle de la régie nationale et celle d'aujourd'hui.
Le fondateur, c'était Louis Renault, c'était donc...
C'était Louis Renault, c'était jusqu'en 1944, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis le deuxième temps, c'est la régie nationale, et là... la marque Renault, la régie nationale, rentre vraiment en force dans notre histoire.
Avec Boulogne-Billancourt en particulier.
Oui, Renault devient une entreprise pilote et beaucoup de choses se créent chez Renault, puis deviennent ensuite nationales. Renault a véritablement eu un rôle national très important.
Mais de quel ordre, justement, dans le rapport à l'État ? De quel ordre était-il important, ce rôle de Renault ?
Alors, je dirais que... Au début de son histoire, le rôle de l'État est fondamental puisque c'est l'État qui, par le plan, comme vous l'avez rappelé, le plan d'après-guerre, fixe en fin de compte les créneaux aux marques automobiles. Mais après, Renault réussit à se retirer en fin de compte de la dépendance de l'État pour apporter sa propre politique. Et Renault va être cette entreprise qui va réussir à apporter à l'économie française une croissance, à apporter à la société française des avantages comme les troisièmes ou quatrième semaine de congé payé, et Renault va véritablement être l'entreprise que l'on regarde, l'entreprise qui essaye, l'entreprise pilote, comme on dit dans les années 60, l'entreprise, en fin de compte, qui essaye et qui, bien souvent, entraîne l'ensemble de l'économie et de la société française. Et ça, Renault le fait, je dirais, bien sûr, c'est regardé par l'État, mais il n'empêche que c'est sa propre politique.
Oui, mais néanmoins...
à un homme, à ce...
Oui, allez-y, continuez, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Et on le doit à un homme, c'est Pierre Dreyfus, président de la régie Renault, qui, d'une façon très autonome, il a bien dit qu'il avait la liberté de réussir, c'est lui qui apporte, et parfois, je dirais presque contre l'État, la quatrième semaine de congés payés, Dreyfus est convoqué à l'Élysée pour s'expliquer. Donc, il n'y a pas, en fin de compte, de dépendance totale vis-à-vis de l'État.
Mais néanmoins, ah, bien sûr, si on peut dire que l'État demande quelques contreparties et que dans cet état planificateur dont je parlais au tout début, en particulier, eh bien, puisqu'on est actionnaire de Renault, puisqu'on est principal actionnaire de cette régie Renault, eh bien, on va lui demander de s'installer dans des régions où il n'y a pas une industrialisation énorme. On va l'emmener dans des endroits où, effectivement, ça n'est pas Sochaux puisqu'il y a Peugeot qui s'y est installé. Ça n'est pas d'autres usines en région parisienne parce que là aussi, d'autres marques d'automobiles y sont. Mais on va lui demander de s'installer dans des endroits où il y a une plus faible industrialisation. Donc, il y a bien une contrepartie à la présence de l'État dans le capital.
Vous avez raison, il y a cette obligation d'aller s'implanter en province. Elle n'est pas propre à Renault, c'est-à-dire que d'autres entreprises automobiles ou même d'électroménagers vont également en province, donc c'est pas uniquement lié à la régie Renault. Là où peut-être il y a un débat difficile en France, c'est le rapport de Renault à l'argent. Qui finance Renault lorsque Renault est une entreprise nationalisée? Est-ce que c'est l'État qui apporte de l'argent ou est-ce que c'est son actionnaire unique qui apporte de l'argent? Et selon la réponse que vous faites, eh bien, on peut voir que si l'État apporte de l'argent, il peut effectivement froisser la concurrence, mais si c'est l'État actionnaire unique qui apporte de l'argent, il me semble que c'est le rôle logique d'un actionnaire d'apporter de l'argent à son entreprise.
Anne Hédoux, vous qui êtes économiste, tout de même, ce que vient de raconter l'historien Jean-Louis Loubet, c'est de l'histoire passée, parce que entre cette régie Renault autonome des années 60 et des années 70, telle qu'elle est dirigée par exemple Pierre Dreyfus, et puis la régie d'aujourd'hui, il y a eu de longues phases qui se sont écoulées, et des phases en particulier de privatisation de plus en plus importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'État n'est propriétaire qu'à 15% de ce groupe Renault.
Alors oui, la régie est devenue une société anonyme à capitaux d'État d'abord en 90, elle est entrée en bourse en 94, privatisée en 96, et dans les années 90, on a vu Renault se lancer comme dans le secteur automobile, dans des alliances, des fusions, des participations croisées, voilà. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que Renault est un peu le résultat de ce mouvement de concentration et de mondialisation qui a été observé dans l'automobile. Hein. C'est un groupe qui est aujourd'hui de dimension mondiale et qui est vraiment très loin de l'entreprise qu'elle a été.
Mais en même temps, effectivement, il en reste des restes. Ces sièges ou ces usines à Flins, à Dieppe, à Maubeuge, à Choisy-le-Roi, à Caudan, qui, pour certaines d'entre elles, vont fermer, une d'entre elles, et puis pour les autres qui vont être réaménagées, c'est bien le reste de ce grand empire industriel construit en grande partie par l'argent des contribuables et par l'État.
Oui, bien sûr, c'est même davantage que des restes, hein. C'est-à-dire que Jean-Louis Loubet l'a très bien dit, hein. Il y a bien cet imaginaire en France de cette entreprise Renault très implantée sur le territoire, dont dépendent un nombre considérable d'emplois en France. Et donc, oui, c'est encore une entreprise très très centrale dans l'industrie française. Et de ce point de vue-là, l'État a toujours une participation, mais on voit bien que l'État n'a pas l'intention de laisser tomber l'entreprise. Mais bien sûr, aujourd'hui, encore plus qu'avant, la question de l'intervention de l'État, elle se pose toujours. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'État détenteur de capitaux ou aujourd'hui dans le cadre d'un État néolibéral qui est, je dirais, le plus ferme soutien des entreprises à tous les points de vue.
On va y venir d'ailleurs dans un instant. Jean-Philippe Fellmann, vous êtes le dernier intervenant de cette discussion. On peut dire que vous êtes un spécialiste du libéralisme et du libéral vous-même d'une certaine façon. J'imagine que vous vous dites, mais pourquoi l'État est-il encore dans le capital d'une entreprise comme Renault ?
Alors, je ne sais pas si je suis bien placé pour vous répondre, parce que moi, j'ai une Peugeot, mais je vais quand même essayer de vous répondre. Et c'est vrai, en plus. Oui, bien sûr, c'est la première remarque qu'on peut faire. Moi, je suis libéral, effectivement, je ne m'en cache pas. Mais sans être un économiste libéralisme, je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser la question. L'État a-t-il une compétence quelconque dans ce domaine-là?
Ah, c'est un coup, effectivement, qui vous arrive en tant que libéral. Eh bien, écoutez, la ligne est coupée. On va essayer de vous retrouver tout de suite, Jean-Philippe Fellmann. J'espère qu'on va pouvoir vous avoir tout de suite pour que vous puissiez développer votre vision, justement, de l'économie et en particulier du rôle de l'État dans les entreprises. Est-ce que l'État doit être un régulateur, comme l'a imaginé, par exemple, dans une conférence au Conseil d'État, le vice-président du Conseil d'État, c'était Bruno Lasserre, au début de 2009. Est-ce qu'il est 2019, est-ce qu'il doit être un État sauveteur, comme on le voit pour l'instant en tant qu'État qui tente de sauver justement des entreprises, que ce soit Air France ou que ce soit Renault, ou est-ce que c'est un État planificateur, reprenant en cela une longue tradition de l'État? Avant que nous retrouvions Jean-Philippe Fellmann, cette question, vous la posiez à l'instant même, Anne Edou, c'est vrai que on est parti dans un certain sens, c'est-à-dire que entre l'État gaulliste des années 60 et 70, qui avait énormément de participation, de nationalisation, avec des grandes entreprises qui appartenaient à l'État. Et aujourd'hui, il y a vraiment un grand gouffre entre les deux.
C'est à moi que vous posez la
question.
Oui,
je vous pose la question, oui. Puisque Jean-Philippe Fellmann a été interrompu.
Il y a un gouffre, mais je dirais, curieusement, hein, on repose aujourd'hui la question du rôle de l'État et des nationalisations. Alors, c'est vrai.
Elle est reposée par qui ? Parce que on voit à la fois à droite des gaullistes qui disent tout compte fait, on a peut-être eu tort, et certains d'entre eux sont assez étonnants, comme Aurélien Pradier dit, on a tué l'idée de l'État, on a dit que c'était un problème, je crois à la planification, quand je m'inquiète de la sécurité alimentaire, on me dit que je fais du Mitterrand, donc il dit, moi, la tradition dans laquelle je suis, c'est la tradition gaulliste de l'État stratège. Et puis, j'imagine qu'à gauche aussi, il y a des économistes ou des militants politiques qui pensent que effectivement l'État a un rôle à jouer. Et puis, à l'intérieur de cette même droite et à l'intérieur de cette gauche aussi, il y a des gens qui pensent que l'État n'a rien à faire dans l'économie.
Oui, alors moi j'ai envie de faire un parallèle. Alors bien sûr, on ne peut pas trop le pousser, mais avec 1945, aujourd'hui on n'est pas en guerre, mais on traverse quand même une crise profonde qui est à la fois sanitaire, sociale, environnementale, économique, enfin voilà. Et puis je dirais, il y a aussi, pour Renault en particulier, une forme de crise morale, hein, puisque ses dirigeants sont pas aujourd'hui accusés de collaboration avec les nazis, il y a quand même des affaires de corruption, hein, dans le cas de
avec Carlos Ghosn.
Accusés de corruption dans le cas de Carlos Ghosn. Et donc, je dirais, aujourd'hui, c'est pas la crise morale des liens entre la grande entreprise et le nazisme, mais il y a une forme de crise morale qui est celle du néolibéralisme, d'un capitalisme financiarisé. Et donc, c'est pas très étonnant qu'on voit ressurgir ces questions de nationalisation. Et je dirais, mais comme en 45, elles peuvent interroger à la fois la gauche et la droite. Hein. Mmh. Et donc
on trouve des partisans de l'un et de l'autre à gauche et à droite, c'est ce que vous voulez dire, Anne Edou ?
Oui, voilà, ça me paraît pas très étonnant. Mmh. Alors après, bien sûr, la comparaison, elle s'arrête là. Hein,
bien sûr.
On est aujourd'hui...
Ça n'est pas la Seconde Guerre mondiale et c'est une crise qui n'a duré que deux mois, en l'occurrence.
Exactement. Enfin, voilà. Mais on est quand même face... Enfin, la crise n'a duré que deux mois.
La crise sanitaire, c'est la crise sanitaire, ce que je voulais dire.
Oui, voilà. Mais elle en a amplifié d'autres. Enfin, Renault était déjà en difficulté. L'économie, la société française, enfin, voilà. Donc, il y avait déjà un grand malaise social, je dirais. Et puis, dans l'automobile, aussi des difficultés. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a aussi des défis qui étaient ceux de 45, qui sont de penser une forme de reconstruction. Et ça concerne vraiment l'automobile. Hein. On va y revenir, mais finalement, on a une politique aujourd'hui qui ne pense qu'en termes de relance, alors que on est face à un secteur, celui de l'automobile, qui est très concerné par les défis écologiques. Mmh. Et dont il faudrait penser une forme de reconstruction.
Je redonne la parole à Jean-Philippe Fellmann qui a malheureusement été interrompu et qui vous a laissé le champ libre d'une certaine façon pour développer vos idées, Anne Edou. Jean-Philippe Fellmann.
Oui, c'est la galanterie libérale. je parlais de l'actionnariat chez Renault, c'est-à-dire que l'État pèse 15% officiellement, mais en fait beaucoup plus.
Oui.
Et ça n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces interrogations sur le rôle de l'État, les fonctions de l'État sont extrêmement étendues depuis en réalité bien longtemps. On peut remonter, contrairement à ce qu'on croit, au XIXe siècle. Mais je voulais revenir sur une déclaration qui avait été faite par Monsieur Loubet sur le rôle de l'entreprise comme entreprise pilote dans les années 1960. Mmh, mmh. Ça, c'est un, je dirais, un danger en réalité que les libéraux pointent depuis très longtemps. Je ne peux pas vous donner l'origine de cette expression d'entreprise pilote, mais vous la trouverez au moins à la fin du 19e siècle, dénoncée par certains économistes, et au début du 20e siècle, dans un secteur qui est relativement proche, puisque c'était une nationalisation d'une des compagnies de chemin de fer, Clémenceau avait déjà indiqué qu'il n'était pas question de porter atteinte au marché à l'époque, mais de faire de cette entreprise publique une entreprise pilote. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien, et pour les libéraux, assez inquiétant, parce que en réalité, lorsqu'une entreprise à fond d'État pendant très longtemps, plus aujourd'hui totalement bien sûr, mais à fond d'État pendant très longtemps, eh bien existe, les entreprises privées sont obligées plus ou moins de s'aligner progressivement sur
Et quel est le problème pour un libéral comme vous justement que les entreprises privées s'alignent sur les critères de l'entreprise publique?
Ben, pour un libéral, je dirais que ça serait plutôt l'inverse qui devrait être fait.
J'imagine. Non, je vous pose la question. Je vous taquine un peu, mais j'essayais d'aller que vous alliez tout petit peu plus loin.
Ça n'a pas marché.
Justement, puisque vous interpellez Jean-Louis Loubet, est-ce que Renault a eu à souffrir de cet actionnariat public et de ce désinvestissement dont parlait Anédou tout à l'heure, au fur et à mesure justement des années 80 et des années 90 de l'État dans son propre capital?
Je pense que ça dépend des moments, si vous voulez. Il est certain que lors de la grande crise des années 80, Renault a été sauvé par l'État et par l'argent de l'État. Donc là-dessus, c'est une évidence. Mais je pense
c'est
que
une évidence pour vous. Mais pourquoi il y avait cette crise justement d'automobile et en quoi l'argent de l'État a-t-il sauvé Renault à ce moment-là?
Eh bien, dans les années 80, il y a, je dirais, trois crises qui se lient les unes aux autres. C'est la crise de l'automobile, la crise de la marque Renault, et puis une crise industrielle par rapport à un système productif. Oui. Et donc là, c'est un saut considérable à faire, et Renault se trouve dans une spirale de l'échec, échec de produits, échec de stratégie financière. Mais pour en revenir à ce que disait Jean-Philippe Wellmann, je pense que effectivement, le fait d'avoir une régie nationale dans le monde de l'automobile face à des constructeurs privés, ça, c'est évidemment un déséquilibre. Il n'empêche que chez Peugeot, puisque Jean-Philippe Feldman est bien de Peugeot, les Peugeot reconnaissent une chose, c'est que la régie Renault, avec cette logique d'entreprise pilote, c'est-à-dire d'aller vite, d'avoir une croissance peut-être pour entraîner le pays, les Peugeot reconnaissent que sans Renault, ils ne seraient peut-être pas devenus ce qu'ils sont.
Vous voulez dire c'était une saine concurrence, une saine émulation en tous les cas.
Je dirais une émulation.
Oui, parce que évidemment, une émulation pour vous, j'imagine, Jean-Philippe Feldman, qui était déséquilibré, puisque d'un côté des crédits d'État, de l'autre côté des crédits privés.
Par définition. Je voulais revenir sur cette question de concurrence par rapport aux difficultés de Renault. Puisque vous posiez cette question tout à l'heure, des difficultés de l'État avec Renault dans les années 80 notamment, il faut quand même pas oublier les difficultés pour le contribuable et également pour le consommateur. Est-ce que la qualité des véhicules Renault à cette époque était formidable? Est-ce que Renault était armé véritablement pour lutter contre la concurrence qui était limitée par les règles protectionnistes à l'époque, notamment la concurrence des automobiles asiatiques? Je n'en suis pas convaincu. Moi, je me souviens très bien de ce qu'étaient les voitures en général, et les Renault à l'époque, ça n'était pas brillantissime, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était même très fruste et très en retard par rapport à beaucoup de modèles étrangers. Et je ne suis pas sûr, effectivement, que le côté entreprise publique de Renault à l'époque ait été un grand avantage. C'était un avantage pour l'entreprise parce qu'effectivement, c'était à fond perdu, puisque de toute façon, c'était le contribuable qui pouvait renflouer derrière. C'est l'avantage de l'entreprise publique. Mais pour le contribuable, c'est une autre chose. Et pour le consommateur également, je dis encore une fois, je ne suis pas sûr que la qualité n'en pâtisse pas.
Anne Edou, vous observez en tant qu'économiste atterré en particulier justement le rôle que l'État va jouer dans la relance économique d'aujourd'hui. Et vous dites, il y a un problème, c'est que cette question de relance passe sous silence tout un tas de données qui sont extrêmement essentielles. Il vaudrait mieux parler de reconstruction, disiez-vous tout à l'heure. Pourquoi vous voulez justement vous installer sur cette contradiction entre relance et reconstruction, et en quoi la reconstruction est-elle, disons, meilleure selon vous pour l'économie que la simple relance ?
Alors, déjà, je dirais, en l'occurrence, quand je parle de reconstruction s'agissant de Renault, c'est que il faut peut-être repenser la place de la voiture dans nos sociétés.
Si c'est compliqué pour un constructeur automobile de repenser la place de la voiture, parce que ça signifie forcément que cette place sera peut-être moindre qu'elle ne l'a été dans les années précédentes.
Bien sûr, mais c'est quand même une question qui concerne l'État, les citoyens, les contribuables que nous sommes. Donc, si on regarde un peu le plan de relance, en fait, il est très classique, hein, un plan de 8 milliards d'euros pour le secteur automobile. Et je dirais, la première mesure, on pourrait la qualifier de macronette, hein, puisque c'est une incitation financière à l'achat de véhicules pour les particuliers et les entreprises.
Véhicules dits propres.
Incitation un peu verdie, donc bonus à l'achat de véhicules électriques, prime à la conversion d'un véhicule diesel. Et donc, on est vraiment en présence là d'une mesure néolibérale qui est tout à fait conforme à des mesures qu'on connaît depuis le début des années 90. Mmh. Hein, il y a eu la baladurette, la jupette, on peut même parler d'une sarkozette. Voilà.
Il n'y a pas eu de hollandette.
Pas à ma connaissance, mais peut-être que j'en oublie. Hein,
sûrement, peut-être. Mais voilà.
Et donc, ces mesures, on sait ce qu'elles produisent, c'est-à-dire qu'effectivement, elles se traduisent par un gonflement des ventes, mais un gonflement plutôt temporaire.
Et artificiel.
Il y a une forme d'effet d'aubaine, les consommateurs en profitent, et puis finalement, une fois qu'ils ont leur voiture, je dirais, c'est fini pour quelque temps. Donc c'est une mesure qui est assez coûteuse pour les finances publiques, qui d'ailleurs, au passage, en ce qui concerne la macronette, va surtout bénéficier à des ménages aisés, puisque le bonus le plus fort est pour les véhicules électriques, qui sont pas à la portée de toutes les bourses.
Vous voulez dire plutôt les SUV ou des choses comme ça ? Donc les gros véhicules qui sont d'ailleurs des véhicules très importants et qui coûtent très cher.
Les véhicules électriques coûtent assez cher. Hein. Et c'est eux qui bénéficient du plus fort bonus. Je dirais, avec cette mesure, on a une forme de paradoxe, c'est-à-dire que le président annonce qu'il veut faire de la France le premier producteur de véhicules propres, mais finalement, peut-être que avec la macronette, on en fera plutôt le premier acheteur. Hein, et quand on sait que les chaînes de production sont mondialisées, on n'a pas tout à fait une solution.
On va demander son avis à Jean-Louis Loubet, spécialiste de l'automobile. Est-ce que, par exemple, vous pensez que Renault, ces temps-ci, en tant que spécialiste de l'histoire automobile, est justement prêt, comme le disait tout à l'heure Jean-Louis Loubet, est prêt à la fois dans l'investissement et dans les capacités à développer, à Guyancourt ou ailleurs dans son centre de recherche, à développer des véhicules électriques, de nouvelles normes, à développer, disons, à être le moteur dont vous parliez tout à l'heure pour l'ensemble de l'industrie automobile en France?
Il faudrait l'espérer, mais...
Mais vous ne l'espérez pas. J'ai l'impression que vous ne le pensez pas.
Je rejoins ce que disait Anne Edou. C'est quand même des mesures, quelles sont ces baladurettes ou ces macronettes ou philippettes, c'est quand même des mesures qui ne guérissent rien. L'ambition d'un vrai programme, si l'État était suffisamment courageux, ce serait d'imposer peut-être une autre automobile. Et là, on touche peut-être au fond des stratégies industrielles dans l'automobile, c'est que plutôt qu'aider à vendre, il faudrait peut-être aider à trouver d'autres solutions, trouver d'autres véhicules. Je rappelle que Renault a été une entreprise dans les années glorieuses qui a inventé beaucoup de choses et qui a su...
Quoi, par exemple ?
Apporter une... Eh bien, apporter ce que la publicité a appelé très tardivement les voitures à vivre, qui sont en fin de compte des voitures depuis les années 60.
L'espace, quoi.
Des voitures, bien avant, la Renault 4, les Renault 5, des voitures adaptées à la société, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les familles. Et il faut donc que la voiture soit totalement en phase avec, bien sûr, la clientèle, mais aussi avec la société. Or, je crains que le SUV, que je compare toujours au dinosaure de l'automobile, et vous savez la fin quand même de cette bestiole, je pense qu'il faut peut-être revoir l'offre automobile, et c'est non pas à l'État, mais c'est certainement aux constructeurs de travailler.
D'y repenser ensemble.
Sur ce que doit être l'automobile du 21e siècle.
Vous écoutez le temps du débat, un temps du débat consacré à Renault, État sauveteur ou État planificateur, avec trois invités. Jean-Louis Loubet, que vous venez d'entendre, donc professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire automobile. Anne Edoux, maîtresse de conférence en économie au CNAM et membre des économistes atterrés. Jean-Philippe Fellman, à qui je donnerai tout de suite la parole dans un instant après ce titre. C'est un titre qui s'intitule « Voiture française » du groupe français Aston Villa.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Autant des jours qui viennent, via Hong Kong, Marseille ou Barcelone, j'essaye d'y être sensible.
h43 sur France Culture. Renault, État sauveteur ou État planificateur, c'est le thème de notre temps du débat d'aujourd'hui avec Jean-Louis Loubet, historien de l'automobile, avec Anne Edoux, économiste, et avec Jean-Philippe Fellman, qui est un des contributeurs principaux du dictionnaire du libéralisme chez Larousse. Je crois aussi que vous avez signé le 25 avril dernier dans le journal du dimanche ce texte qui s'intitulait « Libérons la société pour sortir de la crise ». Il y avait Virginie Calmels, il y avait Gérard Longuet, il y avait Dominique Régnier, et il y avait vous-même, Jean-Philippe Fellman. C'est un texte qui dit, en fait, l'État n'a rien à voir dans cette affaire-là, dans la place qu'il prend dans l'économie est trop importante. Il faut en tant que libéraux, il faut défendre la place du libéralisme. Est-ce que la planification n'est pas une aberration, disaient certains. Qu'est-ce que vous vouliez dire en signant ce texte, Jean-Philippe Fellman?
Alors je crois que c'est moi-même qui l'avais rédigé d'ailleurs initialement, ensuite c'était une entreprise commune, donc effectivement je l'ai signé. Surtout, nous avons un petit peu peur de ce qui peut se passer ces prochains mois et de ce qu'on voit déjà, c'est-à-dire le fait qu'un État qui est déjà extrêmement interventionniste, parce que on oublie quand même.
On peut
de
pas
le dire.
Lui reprocher de l'avoir été pendant la crise, non? Vous lui reprochez même d'avoir été interventionniste pendant la crise?
Je dirais que les libéraux classiques, dont je fais partie, ne sont pas opposés à l'intervention de l'État pour résoudre un problème de pandémie. Ça, c'est quelque chose qui remonte, je dirais, au texte depuis les 18e et 19e siècles. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Je ne suis pas un anarchiste. En revanche, le fait d'intervenir, ça ne veut pas dire intervenir de manière massive et n'importe comment. On ne peut pas dire non plus que l'État français se soit caractérisé par une très grande efficacité en la matière, surtout quand on nous compare à un certain nombre de nos voisins. Mais ce que je disais surtout, c'est que il faut faire très attention à ce que l'État, déjà le plus important État-providence au monde, ce qu'on oublie quand même de dire.
Dominique Régnier disait d'ailleurs dans cet article, ou à côté un autre article, disait que les dépenses publiques étaient de équivalent à 56% du PIB.
Oui. Voilà. Oui, donc. Bien sûr. Nous sommes, de toute façon, c'est très simple. Hein. Nous sommes numéro un mondial de la dépense publique. Nous sommes numéro un mondial de la fiscalité et nous sommes numéro un mondial des cotisations sociales, notamment. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Et je dis encore une fois, quand on regarde l'efficacité de l'État dans sa gestion de la crise, qui était, je vous l'accorde, extrêmement difficile, ça n'est pas brillantissime. Bon. Ce que nous souhaitons, c'est que, si vous me permettez l'expression, on confine l'État à l'issue de cette crise. L'État est intervenu, la crise n'est pas terminée. Aujourd'hui, on ne sait pas d'ailleurs quand elle va se terminer.
Parce qu'il y a pour la crise économique, vous ne pensez pas, par exemple, que le rôle de l'État, ces injections massives d'argent, ce plan européen de 750 milliards d'euros n'est pas nécessaire? C'est de l'argent public, cet argent-là, en l'occurrence.
C'est de l'argent qui n'existe pas. Le problème, c'est qu'on injecte de l'argent qui ne correspond pas à une création de richesse. Donc ensuite, on a eu des gens de droite, de gauche et du centre qui nous ont dit il faut mettre X centaines de milliards d'euros et c'était à qui vendrait le plan le plus dispendieux. Mais je dis encore une fois, le problème, c'est que l'État français était un État en crise avant la crise. C'était un État aux comptes dégradés, ça ne date pas évidemment du mandat actuel, ça fait 45 ans consécutivement qu'on est en déficit, donc c'est pas nouveau. On est incapable d'équilibrer le budget. Depuis 3 ans, à peu près, on n'a pas fait de réduction d'économie dans le budget de l'État. Donc on se retrouve dans cette crise, au début, avec des comptes extrêmement dégradés et un État qui est en très grande fragilité. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que dans cette période extrêmement difficile, dans laquelle les pouvoirs publics se devaient d'intervenir pour tenter de résoudre cette crise, eh bien, l'efficacité n'a pas été au rendez-vous parce que nous n'avons pas déjà des comptes sains. Donc, dépenser de l'argent, c'est très bien, mais si on avait eu des comptes sains avant, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Et aujourd'hui, au niveau européen, effectivement, il y a eu des batailles pour savoir comment on allait mettre en place un plan de relance, etc., etc. Bon, évidemment, quand on parle de relance, les libéraux tiquent immédiatement, parce que on pense immédiatement à une relance de type néo ou post-keynésien, même si souvent on mêle le nom de Keynes un petit peu à tout et n'importe quoi, mais peu importe. Et ça nous inquiète beaucoup, parce que le rôle de l'État est déjà très important, et pour nous, justement, la crise, c'était un moyen de reconsidérer le rôle et les missions de l'État. Malheureusement, je termine là, malheureusement, nous n'arrivons pas à nous réformer en France, et c'est d'ailleurs la leçon de ces derniers mois, mais c'est une leçon ancestrale, et on arrive finalement à se réformer uniquement et dans la douleur que dans les périodes de crise. Donc c'était justement le bon moment pour essayer de s'interroger sur ce point.
Anne Hédoux, je pense que vous êtes absolument perpendiculaire à ce qui vient d'être dit par Jean-Philippe Fellmann.
Alors je suis juste d'accord avec la dernière affirmation, à savoir que la crise est un moyen de reconsidérer le rôle et les missions de l'État. Mais effectivement, je comprends pas très bien où est l'échec de l'intervention de l'État pendant la crise, l'idée que l'État aurait dépensé un argent qui n'existe pas, puisque effectivement il y a eu une dépense très importante pour sauver l'économie française, et je dirais ça a quand même pas trop mal marché, hein, c'est-à-dire les dépenses considérables principalement sous forme de chômage partiel. Et bien sûr, ça n'a pas évité une hausse du chômage, ni de la précarité, ni de situation de pauvreté extrême. Mais si on compare avec des pays qui n'ont pas utilisé cette stratégie, comme les États-Unis par exemple, où ils sont montés à près de 15% de chômage, avec 20 millions d'emplois détruits, bon voilà, je pense que les dépenses qui ont été faites en chômage partiel, c'est des dépenses qui ne sont pas du tout inutiles. Par contre, c'est des dépenses qui effectivement doivent nous amener à reconsidérer le rôle de l'État, et notamment dans les contreparties qu'il peut et doit obtenir aux entreprises.
Vous trouvez qu'il n'en fait pas assez justement dans ce domaine de contrepartie, c'est-à-dire qu'en gros, on donne de l'argent sans avoir d'assurance. Par exemple, j'imagine que vous imaginez les questions de réchauffement climatique, de changements sociétaux qui pourraient être liés justement à l'intervention de l'argent de l'État dans ces entreprises privées.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment le moment de reprendre en main un certain nombre de questions sociales. D'abord, je dirais, on découvre au moment de cette crise sanitaire que le dogme du zéro déficit s'effrite enfin. Hein, c'est-à-dire que, bah oui, si l'État n'investissait pas du tout depuis des années, je dirais que on n'aurait pas un tel patrimoine en France, hein, alors avec ce qu'il a de bon et ce qu'il a de mauvais. Mais voilà, je veux dire, la question des dépenses publiques, c'est celle du monde qu'on laisse à nos enfants. Hein. Et donc, bien sûr, l'argument des libéraux, c'est de dire on laisse une dette à nos enfants. Mais je pense que ce qui est bien plus important, c'est ce qu'on laisse comme monde aux générations futures. Et aujourd'hui, le défi du monde qu'on va laisser aux générations futures, c'est un défi qui est social, certes, là, aujourd'hui, mais c'est aussi un défi environnemental. Et donc, aujourd'hui, voilà, les questions, c'est comment l'État, je dirais, dans l'urgence, là, pour demain, comment l'État va répondre aux problèmes sociaux qui sont en train de grandir. Et l'autre défi majeur, c'est comment on va répondre aux problèmes environnementaux. Et donc, bien sûr, il y a eu des aides dont ont bénéficié les entreprises, mais maintenant, il faut des contreparties sous forme d'engagement vers la transition écologique.
Alors que pour vous, Jean-Philippe Hellmann, il faut que l'État se retire, justement. Il a aidé, mais maintenant, ça n'est plus son rôle.
Et c'est intéressant, cette déclaration, parce que c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que l'État donne de la main droite, mais reprend de la main gauche. Donc, il donne un argent qui n'existe pas, et il vous demande des contreparties derrière. Alors, sur la question du chômage partiel, moi, je suis quand même avocat en droit du travail, on s'est inquiété ces derniers jours, justement, de ce que faisaient les entreprises de l'argent qui était donné. Je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine qui a été extrêmement important, et que certaines entreprises, beaucoup d'entreprises, ont bénéficié de ces largesses de l'État qui ont été très coûteuses pour les finances publiques et que
bénéficier, vous voulez dire qu'elles ont tiré un parti qui n'était pas exactement celui qu'on espérait d'elles, c'est ce que vous voulez dire?
Eh bien, c'est-à-dire que l'activité aurait pu reprendre plus tôt dans certains cas et que certaines entreprises ont pu bénéficier effectivement de ces fonds pour laisser les salariés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient et d'ailleurs pour les faire travailler. C'est du travail noir, comme on dit, pour les faire travailler alors même qu'ils étaient payés par la collectivité. Donc ça a été quand même un gros problème, et je pense que ces prochaines semaines, on verra une partie de l'étendue des dégâts, mais de toute façon, c'est fait.
Mais dans un Royaume-Uni, la dépêche vient tout juste de tomber, dirigée par Boris Johnson, qui n'est pas précisément un planificateur de grande envergure, eh bien, ils vont mettre les contributions, vont mettre les entreprises à contribution à partir du mois d'août pour le chômage partiel, par exemple. Donc eux aussi, ils ont aidé. Dans un régime libéral, ils ont aidé aussi leurs entreprises le temps justement qu'ils passent, elles passent la crise. Donc il n'y a pas simplement la France qui se trouve dans ce système-là.
Mais je pense que tous les États sont plus ou moins interventionnistes. Mais enfin, la France est toujours bien placée dans ce secteur. Ouais. Quant à l'Angleterre, elle n'est pas libérale. Et quant au Parti conservateur anglais, il a, je dirais, mis ses aspects libéraux de plus en plus sous le boisseau ces dernières années. Quant à Boris Johnson, c'est quelqu'un qui est un trublion un petit peu indéfinissable. Donc je pense que c'est très difficile d'aller dire que c'est un libéral.
Et donc, sur ce point, Jean-Louis Loubet, vous qui êtes historien de l'automobile, si on revient au cas de Renault, dont à partir duquel nous sommes partis au début de cette discussion, avec Jean-Philippe Fellmann et avec Anne Hédoux, est-ce que, justement, vous sentez que Renault, après la période très difficile qui a été la période de Ghosn, d'abord une période de gloire internationale avec l'alliance avec Nissan, et puis ensuite une période où cette entreprise a été emporté avec la réputation de Carlos Ghosn, est-ce que vous pensez que elle pourra survivre, c'est difficile de faire en tant qu'historien des prédictions, mais elle pourra survivre à cette crise, ou est-ce que tout compte fait, elle est dimensionnée pour pouvoir passer les crises pendant un siècle, elle en a connu d'autres, donc pourquoi pas?
Absolument, elle a connu d'autres crises et je pense que Renault est à même de se sortir de cette crise-là. Il y a des armes quand même solides. Je pense à la voiture électrique qu'il faut
bien... Ça n'est pas une spécialité quand même de Renault pour l'instant.
Il n'empêche que peut-être que Renault aurait dû beaucoup plus développer cette idée était novatrice lorsque Renault l'a lancée. Mais je crois que dans les mesures apportées par l'État dans le plan qui a été annoncé, il y a une mesure qui me paraît essentielle, c'est le développement des bornes de recharge de la voiture électrique, car il n'y aura pas de voiture électrique sans bornes. Or, je rappelle simplement que pour l'automobile et le pétrole, il a fallu que les compagnies pétrolières apportent les stations-service pour que l'automobile se développe. Et si personne ne développe les bornes de recharge électrique, eh bien, vous n'aurez pas de développement d'électricité, de la voiture électrique.
Mmh. Et donc, vous voulez dire que ça, c'est le rôle de l'État, justement, que de les développer?
Mais de l'État ou d'EDF. Oui. Mais il fallait absolument... Enfin,
voilà, une incitation, en tous les cas.
Ah, il fallait absolument développer ça pour ensuite peut-être tourner la page et aller vers une voiture différente pour le 21e siècle.
Anne Hédoux, j'imagine vous escomptez, et on va terminer avec vous cette discussion très brièvement, vous escomptez justement un autre rôle pour l'État. Est-ce que vous pensez que le gouvernement qui est en place aujourd'hui a fait des effets d'annonce en disant qu'effectivement, coûte que coûte, on allait sauver l'économie, ce qui est en train de se faire d'une certaine façon, mais qu'au bout du compte, il ne changera pas la position qui était la sienne avant la crise du coronavirus, et que ce groupe d'économistes dont s'entoure le président de la République depuis hier, il a été annoncé, ce groupe, eh bien, ne changera pas véritablement la politique économique qui a été mise en place.
Alors, oui, je pense que le groupe d'économistes, j'ai regardé un petit peu qui était présent dans ce groupe. Effectivement, le gouvernement a évité, par exemple, de faire appel à des économistes qui souhaitent changer.
Vous voulez dire les économistes atterrés dont vous faites partie, c'est ça?
Ah, les économistes atterrés, oui, mais il y en a d'autres. Je pense à Thomas Piketty, mm-hmm. Esther Duflo.
Ils ont peut-être refusé, on ne sait pas d'ailleurs si ils ont peut-être été sollicités et ils ont peut-être refusé, je n'en sais rien.
Oui, moi je n'ai pas non plus cette information, mais voilà, en tout cas, tel qu'il est composé ce groupe, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'on va attendre des choses tout à fait révolutionnaires. Hein. Ceci dit, on lit pas dans l'avenir. Parfois, les gouvernements agissent sous contrainte. Hein. Vous m'auriez demandé il y a quelques mois si l'État investirait massivement dans le chômage partiel. J'aurais pas parié ça. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans la société des demandes très fortes du patronat, des républicains pour une flexibilité accrue du marché du travail, pour une augmentation du temps de travail. Donc on a aussi des éléments qui laissent penser qu'on va continuer dans le même sens.
Voilà. Merci à vous Anne Hédoux, merci à vous Jean-Philippe Fellmann, merci Jean-Louis Loubet, c'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Manon Price, Fanny Richer, Rémi Baille et Hugo Boursier. À la technique aujourd'hui, Stéphane Poitevin. À la réalisation, Perret Legras. Vous pouvez toujours aller sur le site de France Culture pour voir la conversation mondiale. Vous savez, ces textes que nous demandons à des intellectuels du monde entier. Aujourd'hui, Ayşen Uzal, politiste et sociologue turc, a donné une contribution justement sur la place de la Turquie dans ce moment particulier justement de la crise mondiale du coronavirus. Lundi, nous reviendrons sur la hiérarchie sociale des métiers dans la société française.